Et il est 11h.
Je pense, donc j'agis. Sur RCF et Radio Notre-Dame, avec Melchior Gormand.
Je pense donc que j'agis. Prenez-en de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et tout en prenant soin de la planète. Si vous venez justement d'une autre planète, que vous découvrez ce matin cette émission, je vous donne le mode d'emploi car c'est extrêmement simple. Si vous avez une question de jardinage, vous avez besoin d'un conseil, vous venez directement à l'antenne au 04 72 38 20 23. 04 72 38 2023, ou alors vous laissez vos mails à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour répondre à toutes vos questions et pour écouter, vous donner de bons conseils également, on a la joie d'avoir Arnaud Vance avec nous ce matin. Bonjour Arnaud.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver depuis cette rentrée. Je rappelle que vous êtes jardinier et formateur à terre et humanisme. Merci à l'équipe de Priva et notamment à Vincent qui vous accueille ce matin en studio. Comment ça va Arnaud en cette rentrée ?
Eh ben ça va plutôt bien. J'étais un petit peu malade, j'avais une extinction de voix il y a quelques jours, donc je suis content de l'avoir retrouvé, notamment pour être avec vous tous aujourd'hui. Et puis je suis aussi content que la pluie s'éloigne un petit peu. Nous on a eu un épisode Cévenol assez sévère dans le coin entre l'Ardèche, la Lozère, la Haute-Loire depuis 2-3 jours. Et voilà, ça se calme, la décrue commence à arriver. Et nous on a eu la chance d'avoir un épisode assez calme, un peu sur le sud Ardèche, un peu plutôt dans la vallée, mais il y a eu certains coins qui ont eu des cumuls d'eau impressionnants, jusqu'à 800 mm d'eau sur 24 heures, donc c'est énorme, pour vous rendre compte, 800 mm d'eau, c'est l'équivalent de 80 arrosoirs qu'on verse comme ça sur 1 m². Donc ça a fait pas mal de dégâts, donc je pense une petite pensée à tous ceux qui sont un petit peu dans la galère en ce moment.
Notamment en région Rhône-Alpes, dans le département. Hier, les images sont assez impressionnantes, elles ont beaucoup tourné sur Internet. Donc, bon courage vraiment à toutes celles et ceux qui ont été impactés de près ou de loin par ces intempéries. Arnaud, comment va votre jardin ?
Eh ben en ce moment, là il est complètement détrempé, donc il est vraiment urgent quand on a un sol comme ça complètement mouillé de ne rien faire justement, parce que travailler son sol ou faire des repiquages ou faire des actions au jardin quand le sol est complètement humide, et c'est vraiment un risque de vraiment abîmer son sol. Donc le jardin là, on rentre vraiment dans l'automne, énormément de légumes sont en fin de saison, on a récolté les patates douces cette semaine, on attend toujours le dernier moment pour récolter les patates douces pour être sûr qu'elles soient bien grande, et donc là on commence à nettoyer tranquillement. On a pas mal de légumes malades ou en fin de vie qu'on recycle de différentes manières, donc ça c'est d'ailleurs c'était un peu le sujet du jour que j'avais envie de partager. Il y a souvent cette question qui revient, mais que faire de mes légumes malades, que faire de mes tomates atteintes du mildiou, que faire de mes courgettes pleines d'oïdium, etc., ou de certaines plantes qui sont potentiellement remplies de pucerons ou de certains ravageurs. Et c'est vrai que c'est un sujet. Des fois, on est un petit peu, souvent quand on est un jardinier amateur, on ne sait jamais potentiellement trop quoi faire avec toute cette matière végétale un peu, entre guillemets, contaminée ou malade.
Ouais, et donc c'est tout un programme, Arnaud, justement, pour prendre soin de ces plants de légumes malades. Et avant l'hiver, c'est justement le bon moment de s'en occuper.
Oui, avant l'hiver, justement, on a énormément de légumes, en tout cas au potager, sont en fin de vie. On peut parler, des tomates, des courges, des courgettes. Là, les courges, on les a pas encore récoltées, mais on va pas tarder. On a eu un moment un petit peu chaud avec cet épisode Cévenol, mais le froid va revenir bientôt, donc on va bientôt récolter les courges. Et donc, on est en pleine transition. On plante pas mal un peu de légumes d'hiver. On fait énormément aussi de plantations de semis de couverts végétaux, donc d'engrais verts, pour maximiser la couverture du sol et protéger, nourrir le sol pendant l'hiver pour vraiment après démarrer au printemps sur les chapeaux de roue avec un sol le plus vivant possible, le plus riche possible pour les légumes de printemps. Et puis on fait énormément de compost aussi à cette période de l'année, notamment avec tous différents légumes. Vu qu'on nettoie énormément de planches de culture, on a énormément de biomasse qui arrive, et bientôt les feuilles mortes aussi notamment. Et du coup, c'est vraiment l'occasion pour nous de soit faire du compostage de surface, donc de nourrir le sol via la décomposition de cette matière organique à la surface des sols, ou alors pour des matières un petit peu plus difficilement valorisables comme ça en compostage de surface. On va faire beaucoup de compost, soit des composts qu'on peut mélanger aussi avec des fumiers animaux, pour vraiment avoir des composts qui soient pareil, prêt pour le printemps, pour pouvoir vraiment bien démarrer la saison prochaine. Donc en fait, dès maintenant, là, on pense à la saison prochaine. Voilà, en ce moment, bah notamment, nous on fait nos stocks d'eau, hein, vraiment. Nous ici en Sud Ardèche, les épisodes cévenols, l'air de rien, même si ça peut être catastrophique, c'est aussi une opportunité de capter énormément d'eau qui va nous servir à partir de l'été, le printemps prochain. Nous ici, on a des épisodes de pluie intense à cette période, mais on a aussi des étés très secs.
Très secs, ouais.
On a vraiment une répartition. Ouais, voilà, on a vraiment une répartition de l'eau sur l'année qui est vraiment très différente, notamment, et puis avec les changements climatiques, ça s'intensifie. Donc on a de plus en plus d'eau à cette période et de moins en moins d'eau pendant l'été. Donc il y a vraiment c'est vraiment important d'essayer de stocker de l'eau quand elle est en surplus, notamment à cette période de l'année.
Ouais. Arnaud Vance nous accompagne jusqu'à midi ce matin pour répondre à toutes vos questions de jardinage. Je rappelle que le standard est ouvert, c'est Catherine qui répond à vos appels au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23. On parle des plants malades, des plants légumes, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on entend par malade? Vous avez cité tout à l'heure des affaires de champignons, par exemple. Ça peut être des maladies des plantes, c'est ça aussi?
Oui, c'est ça. En fait, il y a notamment les légumes qu'on dit ratatouilles, légumes d'été, donc toute la famille des solanacées, comme les aubergines, les tomates, les poivrons, toutes ces plantes-là. En fait, en général, elles, dès qu'il y a un petit coup de froid, un petit coup d'humidité, elles ont tendance à attraper des maladies, notamment le mildiou, par exemple, qui est un pseudo champignon là qui attaque notamment les feuilles et puis qui couvre toute la plante assez rapidement. Et ça, c'est assez normal, hein, notre maladie qui est cryptogamique, donc une maladie qui est plutôt sur les courges cucurbitacées, notamment les courgettes et toute la famille des toutes les courges. C'est l'oïdium, donc c'est un petit champignon blanc qui fait comme un petit feutre blanc qui se dépose un peu sur les feuilles, et c'est tout à fait normal d'avoir ça à cette période, voire un petit peu avant, parce qu'en fait c'est des plantes qui ne sont pas habituées, qui ne sont pas faites pour croître pendant des moments un petit peu frais où il y a trop d'humidité. Donc c'est un petit peu normal que ces plantes soient atteintes de ce genre de maladie, donc ce soit des bactéries, soit des champignons, hein, qui viennent notamment en priorité sur les plantes un petit peu faibles, et puis après qui se répandent un petit peu partout. Et donc là, c'est vraiment le moment pour bien nettoyer son jardin de toutes ces plantes. Il y a souvent des peurs un petit peu autour de ça, se dire ah oui, mais si je garde ces plantes dans mon jardin, je vais contaminer mon jardin, notamment pour l'année prochaine, ce qui est pas du tout ce qui est pas le cas. On peut tout à fait garder ces plantes malades, enfin, en tout cas ce type de maladie.
Oui, c'est pas dérangeant.
C'est pas du tout dérangeant. Si vous avez un sol vraiment très vivant, avec qui absorbe bien qui digère bien les matières organiques, vous pouvez tout à fait laisser ça en surface du sol. Ça va être digéré par la vie du sol. Et justement, un sol très vivant, riche en micro-organismes, bactéries, champignons, va vraiment avoir un effet assainissant. Et donc, les pathogènes vont être éliminés. Et sinon, si pour vous, votre sol est pas dans cet état-là, ou à ce moment-là, mieux vaut faire du compostage. C'est-à-dire qu'on va faire du compost à chaud. Donc pas un compost de surface, mais vraiment on va monter un tas assez important, assez vite, au minimum d'un mètre cube, avec tout ce type de plantes malades et d'autres types de matières organiques, fumier, feuilles, paille, etc. Et en fait, on aura vraiment un effet assainissant assez fort, dans le sens où un compost qu'on monte en une seule fois va monter, la température peut monter jusqu'à 60-70 degrés, et là clairement on a vraiment une décomposition très rapide, très assainissante, et en plus ça élimine aussi les graines d'adventice ou qu'on appelait avant mauvaise herbe. Et du coup, on a un compost, entre guillemets, sans graines de mauvaise herbe.
Une plante qui perd ses feuilles, Arnaud, ou dont les feuilles jaunissent, est-ce qu'on peut dire que c'est une plante malade, ou c'est juste une plante qui n'est pas très en forme?
Ça dépend. À cette époque de l'année, c'est tout à fait normal que les plantes jaunissent. Les plantes, notamment les arbres, vont commencer à faire leurs réserves pour l'hiver et pour bien démarrer au printemps prochain. Donc les feuilles vont commencer petit à petit à se transformer, à changer de couleur. Il y a des tanins notamment qui se développent dans les feuilles. C'est aussi ça qui change la coloration des feuilles. Donc en tout cas, à cette période de l'année, c'est tout à fait normal que la coloration change, et voilà, les feuilles vont tomber petit à petit. Les arbres qui sont un petit peu plus fragiles ou qui ont subi un petit peu la sécheresse ou les canicules de cet été, en général perdent leurs feuilles un petit peu avant, mais c'est pas bien grave. Ils vont en général très bien redémarrer au printemps prochain.
Arnaud, au niveau des plantes malades, donc voilà, vous avez parlé des feuilles, notamment les feuilles qui noircissent. Là, ça doit nous inquiéter.
Les feuilles qui noircissent, ça peut être notamment le mildiou, hein, comme on parlait tout
absolument.
À l'heure sur les tomates. Et ben alors, à cette période de l'année, c'est tout à fait normal d'avoir du mildiou qui a tendance à coloniser un petit peu pas mal de plantes. À ce moment-là, vous pouvez, de la façon la production, en tout cas notamment des légumes d'été, ça est arrêté où on est vraiment sur la fin. Donc on peut vraiment tout nettoyer, retirer du coup ces plantes-là, donc ces annuelles-là, et soit les garder dans un coin les garder à la surface du sol pour qu'elles soient digérées par le sol pendant l'hiver, ou autrement faire un compost. On va monter un tas assez rapidement justement pour avoir cette montée en température, pour être sûr qu'il y a un bon assainissement de ces matières. Et il y a quelque chose qui est pas forcément bien connu, mais en biologie on parle d'effet barrière. Il faut savoir que du coup, à partir du moment où vous avez un sol très vivant ou une plante en bonne santé, riche en micro-organismes, en fait plus vous avez une richesse de micro-organismes au sein de votre jardin ou sur vos plantes, donc c'est-à-dire beaucoup de variétés, beaucoup d'espèces de microbes, beaucoup de quantités aussi de microbes, en fait les pathogènes n'ont pas la place de s'installer, ou alors s'ils s'installent, ils vont rester très peu de temps et ils vont peu se développer, ce qu'on appelle l'effet barrière. Et donc vraiment en jardinage écologique, en agroécologie, on essaye au maximum de favoriser le vivant, les bons microbes dans son jardin et notamment dans son sol.
Au niveau de justement cette saison qu'on est en train de vivre, donc nous sommes toujours en plein automne avec des températures assez, on va dire, de saison, beaucoup de pluie, est-ce qu'il y a des précautions à prendre particulièrement avant d'entrer vraiment dans l'hiver?
Eh ben, c'est vrai que là, on est vraiment dans un moment très très humide, encore avec des températures relativement douces. Hein, il n'y a pas encore eu de grosses descentes de température pour le moment. Donc, notamment, sur tout ce qui est la taille des arbres, on va vraiment éviter en général, on taille les arbres vraiment quand les feuilles sont tombées. Hein, et surtout, la taille s'effectue toujours par temps sec. Et pas de gel pour vraiment ne pas favoriser l'entrée de potentiels pathogènes dans les plaies, dans les coupes, dans les tailles qu'on va effectuer sur les arbres. Donc pour le moment les arbres on les laisse tranquilles. Et après au niveau du potager, là effectivement si vous avez eu beaucoup d'eau au sein de votre jardin, pareil on va attendre que le sol se ressuie. Autrement on risque de vraiment déstructurer son sol, de l'abîmer en profondeur. Donc voilà, on va éviter. Et là on a encore un petit, pour ceux qui souhaitent, on a encore le temps de faire des couverts végétaux, c'est-à-dire donc des fameux engrais verts. Si votre jardin est voilà pas forcément utilisé ou par des légumes d'hiver, que ce soit des choux, épinards, etc., fèves, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait continuer à planter certains types de végétaux qui vont continuer à améliorer votre sol et à produire de la photosynthèse, produire de la biomasse tout l'hiver et donc protéger votre sol aussi des intempéries, parce que les pluies intenses, c'est un problème aussi notamment sur l'érosion. Hein. Si vous avez un sol à nu alors qu'il y a vraiment énormément de pluie, vous allez avoir des phénomènes d'érosion qui vont se mettre en place, vous allez perdre votre sol fertile, votre sol arable. Donc ça c'est vraiment un problème. Donc idéalement il faut toujours avoir un sol couvert même pendant l'hiver. Donc à cette période de l'année, n'hésitez pas soit à couvrir votre sol du potager avec des feuilles mortes, de la paille notamment, ou voire même des cartons, et encore mieux mettre des couverts végétaux de plantes vivantes, hein, donc notamment d'engrais verts. Et pour les engrais verts, attention au choix, on va prendre bien sûr des engrais verts non gélifs, en tout cas qui résistent au froid. Donc on peut prendre par exemple du seigle d'hiver, du pois sibérien, ça peut être de la févrole, ça peut être encore de la veste d'hiver. Enfin, il y a pas mal de plantes comme ça qui peuvent être très intéressantes comme couverts végétaux à implanter maintenant. Parce que si vous implantez vos couverts végétaux un petit peu tard, en fait, ils vont pas avoir le temps de bien faire leurs racines, ils vont être assez fragiles pour l'hiver, et s'il y a vraiment des gros coups de froid, ils seront pas assez bien implantés pour résister à l'hiver. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre ces couverts végétaux pas trop tard pour bien qu'ils s'implantent avant la période un petit peu difficile de l'hiver.
Une question de Jean-Luc qui nous a envoyé par mail à direct@rcf.fr. Que puis-je faire contre ce qu'on appelle, je crois, le tigre du platane, car le platane chez moi en est envahi, et chaque fois que j'enlève un bout d'écorce, il y a une petite bestiole blanche dessus. Je ne sais pas si vous connaissez, Arnaud, le tigre du platane.
Je pense que c'est une petite mouche. En tout cas, ça peut ressembler aussi à ce qu'on peut avoir sur les pommiers.
Oui. C'est pas très joli, hein.
Pas très joli, oui. Non, mais oui,
ça doit piquer. Je peux vous envoyer une photo, si vous voulez, Arnaud, par message, comme ça, vous aurez un peu plus de facilité à discerner. Mais oui, j'ai l'impression qu'en effet, quand il y a des platanes, alors notamment en ville, je sais que quand il y a des platanes, on a souvent tendance à, quand on passe sous des platanes, à avoir des petites bêtes comme ça qui nous tombent dessus. Je vous envoie une photo en même temps par message, Arnaud. Je suis désolé, c'est pas très radiophonique ce qui est en train de se passer, mais au moins, on aura une enquête de terrain avec Arnaud Vance, qui, je le rappelle, répond à toutes vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23. Vous avez reçu, Arnaud ?
Oui, j'ai reçu. Ah oui, effectivement. Ça ressemble aussi à ce qu'on peut avoir sur certains pommiers, poiriers. Donc c'est un insecte qui va venir piquer les feuilles, hein, notamment, qui va se nourrir de sève. Et alors quand il est en petite quantité, c'est pas bien grave. Mais il peut vraiment y avoir des pullulations de ce type d'insecte. C'est parfois le cas sur des arbres un peu isolés où justement il n'y a pas forcément d'auxiliaires, c'est-à-dire d'antagonistes de cet insecte qui vont pouvoir réguler, contrôler la prolifération de cet insecte. Donc ça peut valoir le coup de. Parfois ça peut juste être une année comme ça où il y a une pullulation et du coup ça attire certains auxiliaires qui du coup vont s'installer sur place et l'année d'après on en aura toujours mais en quantité assez moindre et du coup ça va être contrôlé naturellement. On va dire. Et si vraiment c'est le contrôle naturel ne se fait pas, à ce moment-là, on peut plutôt passer à des traitements curatifs. Donc en jardinage écologique, on va plutôt utiliser des préparations à base de plantes, justement pour soigner les plantes. Donc je pense à la macération d'ail, qui marche très très bien en insecticide. C'est quelque chose qui peut s'acheter en jardinerie ou on peut aussi le faire à la maison en autoproduction. Donc je vais pas forcément donner la recette l'antenne parce que ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est quand même relativement facile à faire. Macération d'ail, c'est un insecticide on va dire générique, donc à utiliser avec parcimonie et toujours de manière assez localisée parce que du coup c'est un insecticide qui va tuer un petit peu tout ce qui passe à côté. Mais ça, en général, ça marche assez bien.
Allez, un peu plus de 11h15 sur RCF et Radio Notre-Dame. C'est votre émission de jardinage préférée du vendredi ce matin avec toutes vos questions et vos besoins de conseils au 04 72 38 20 23. On va écouter de la musique, Arnaud. Et comme d'habitude, vous avez le choix entre, alors ce matin, une chanson de Cocoon, un duo Joseph Kamel et Julien Doré ou alors un tube de Dua Lipa. Qu'avez-vous envie d'entendre ?
Eh bien, je vais partir sur le Julien Doré.
Ah ben, c'est un duo avec Joseph Kamel qu'on va écouter tout de suite. Et ça, vous en profitez pour venir à l'antenne, poser toutes vos questions au 04 72 38 20 23.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste, elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau, tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Voilà, Joseph Kamel et Julien Doré pour vous accompagner en ce vendredi matin. Beau.
Je pense, donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand.
Et toujours avec Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme, qui répond à toutes vos questions de jardinage ce matin au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous envoyer vos questions par mail à direct@rcf.fr. Vous restez bien connectés parce qu'à partir de 11h30, on aura quelques cadeaux à vous offrir. J'en dis pas plus pour le moment. Bonjour Annette.
Bonjour monsieur. Je vous appelle, c'est parce que je vous appelle de Vendée.
Oui.
Tout près de la forêt de Mervent, du père de Montfort. Et j'ai un citronnier que j'ai gardé dans ma véranda cette année, parce que c'est très difficile à le sortir maintenant, mais enfin, il faudra le sortir. Il est plein de cochenilles.
Ah, oui. Mince.
Parce que ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Et c'est un citronnier des 4 saisons. C'est un ami qui me l'avait greffé, et une année, j'ai eu 140 citrons dessus.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, hein, mais c'était bon, je vous assure que c'était... Et oui, il fleurit et il produit, et c'est des 4 saisons, on appelle ça... il est toujours en fructifié, quoi, il est toujours en...
Ah, il porte des fruits en permanence.
Fruits en permanence.
Mais il y a des cochenilles.
Il a des cochenilles, mais alors là, c'est pas la cochenille dufteuse, c'est la cochenille qui est dessus, qui est collée sur les feuilles. Je suis très ennuyée parce que j'ai peur que là, il disparaisse.
Oui, effectivement, la cochenille sur les agrumes, c'est assez classique, hein. Donc, Annette, ce qu'on fait, assez régulièrement, donc on peut à la fois des traitements qu'on dit plutôt préventifs et des traitements plutôt curatifs. Souvent ce qui marche assez bien, mais ça faut le faire régulièrement, c'est vraiment passer votre citronnier au jet d'eau, avec un jet d'eau assez puissant. Et il faut savoir que les feuilles du coup de citronnier sont assez costauds, donc elles vont résister assez facilement au jet d'eau. Et par contre, ça va vraiment éclater entre guillemets les cochenilles, ça va vraiment les faire tomber, et à partir du moment où elles sont tombées au sol, elles ont vraiment pourront pas remonter sur le citronnier. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à faire régulièrement, qui va vraiment casser la pullulation ou l'explosion des cochenilles. Et donc après que vous ayez fait ce traitement vraiment au jet d'eau, hein, qui est relativement facile à faire, il faut un pommeau d'arrosage potentiellement un petit peu spécifique si vous avez pas encore ça. Et après ça, vous pouvez faire un petit traitement avec un insecticide naturel justement contrôler ces cochenilles. Donc ça peut être encore une fois la macération d'ail qui marche bien, ou ça peut être aussi des infusions par exemple de tanaisie. La tanaisie, qui est une plante qui a des capacités insecticides naturelles. Donc en tout cas en couplant ces deux méthodes, en général ça fonctionne bien.
Est-ce qu'il va falloir le sortir dehors?
Oui, et puis il doit être énorme, votre citronnier.
Il a été retaillé parce que une année j'ai laissé dehors parce que j'en avais marre de, et je suis âgée, hein, quand même, hein. Alors c'est pour ça qu'il me faut des hommes pour le passer à la porte de la véranda.
Et des
bras forts.
Arnaud, quoi. On va y aller, hein. Arnaud.
Des costauds.
Oui, il faut
vous le mettre sur roulette éventuellement, mais c'est vrai que pour le passer au jet d'eau, c'est plus pratique s'il est dehors, effectivement.
Oui, mais puis ce qu'il y a, c'est que maintenant les portes de la véranda, elles sont pas extensibles non plus. Alors lui, il est très gros, très très haut, hein. Je lui ai dit, ça fait 20 et quelques années que je l'ai. Et ça, tout s'était bien passé, mais l'année dernière, j'ai eu de la cochenille sur des plantes, de la cochenille dufteuse. La plante a été perdue.
Annette, en tout cas, merci beaucoup pour votre appel. J'espère qu'on va réussir à solutionner ce problème. Arnaud, c'est courant, la cochenille sur le citronnier?
Oui, la cochenille sur les agrumes, c'est assez courant. C'est un ravageur qui a malheureusement assez peu d'auxiliaires, assez peu d'antagonistes. Du coup, c'est vrai que il faut être assez attentif sur les agrumes, notamment les agrumes qui sont dans des serres ou dans la maison. En général, les cochenilles aiment bien ces climats un petit peu tempérés où il y a peu de différence de température et elles ont tendance à avoir une population qui peut exploser. Donc en fait, faut être vigilant. Et de pas attendre le dernier moment pour agir et vraiment nous on traite relativement peu avec des produits naturels type insecticides mais juste en étant attentif, en passant régulièrement autour des agrumes et quand il faut on passe au jet d'eau avec un jet d'eau assez puissant et ça décolle vraiment très très bien les cochenilles, que ça soit sous les feuilles, sur les tiges, sur le tronc, elles tombent tout au sol et vraiment on a très très peu de problèmes de cochenilles avec cette méthode très très simple du jet d'eau.
Ça fait partie des maladies des plantes qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, c'est un ravageur assez commun, notamment sur les agrumes. Et quand le problème, c'est que si vous avez des agrumes, ils sont vraiment remplis de cochenilles. Potentiellement, ces cochenilles vont aller sur d'autres plantes. Ça peut être sur d'autres plantes aromatiques que vous pouvez avoir d'autres plantes qui sont appréciées par la cochenille. Mais en tout cas, si vous avez des agrumes, c'est sûr qu'en priorité, elles vont sur les agrumes. Donc, faut vraiment être vigilant à regarder ça en priorité.
Je reviens sur les agrumes. On est mi-octobre à peu près, Arnaud. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en prendre soin avant l'arrivée de l'hiver, là, des agrumes?
Les agrumes, c'est des plantes qui sont assez exigeantes quand même. Donc, faut pas hésiter ça dépend des agrumes, mais il y a des fruits, il y a pas mal d'agrumes qui portent les fruits. Les fruits sont en train de grossir. Donc, on peut tout à fait aider cette fructification en apportant des fertilisants naturels pour un petit peu booster la plante, notamment les plantes qui sont en pot. Donc, on peut déjà apporter des. Alors, si on apporte des fertilisants, ça peut être des extraits fermentés de consou, d'ortie ou des choses spécifiques qu'on peut acheter dans le commerce pour les agrumes qui ont des besoins assez spécifiques qui pas forcément les mêmes besoins que des légumes du potager. Donc ça c'est une première chose. Alors il faut faire attention, il faut y aller avec parcimonie parce que les fertilisants un petit peu solubles la plante a pas forcément n'a pas le choix de les absorber ou pas vu qu'ils sont solubles du moment qu'elle prend de l'eau ou qu'elle se nourrit, elle va forcément les absorber. Donc il faut pas en mettre de trop. Le risque de mettre trop de fertilisants, ça va fragiliser la plante au lieu de la renforcer. Et justement, elle va devenir appétante pour certains ravageurs, notamment les pucerons qui se nourrissent un petit peu de la sève des plantes. S'il y a une sève un peu trop sucrée, un peu trop riche en nutriments, les ravageurs le sentent bien et arrivent en priorité sur la plante. Donc toujours faire attention avec ce type de fertilisation. Et quelque chose qui pour les agrumes très intéressant aussi à cette période, c'est le rempotage. Les passer d'une année sur l'autre ou tous les deux ans dans des pots un petit peu plus gros. Avec un mélange de substrat.
Et on va continuer d'en parler dans un instant, Arnaud. On a plein de choses à se dire jusqu'à midi avec toujours vos appels, vos réactions, vos questions de jardinage et vos conseils au 04 72 38 20 23. Et dans un instant, on aura des cadeaux à vous offrir. Restez bien là, à tout de suite.
Bonjour à tous. Dans Effervescence cette semaine, on découvre la figure de DJ Mehdi. Avant d'avoir vu la formidable série d'Arte, je n'avais jamais entendu parler de ce compositeur de génie qui a révolutionné le rap français avant de devenir un pilier de la French Touch.
Effervescence, c'est ce vendredi à 20h.
Vous rêviez d'un guide véritablement sur mesure ? Petit Futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse, resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 2,99€ seulement, mypetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à partager.
Moi qui suis déficient visuel, j'aime beaucoup aussi les temps de prière que vous passez le matin. Le temps de prière, on peut pas se les faire traduire, on peut pas se les faire lire parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un de disponible. Vous êtes un énorme support pour nous et ça je tiens à vous remercier, vous et toute l'équipe de RCF. Voilà.
Si comme Guillaume, vous souhaitez que RCF continue d'être au service de tous ses auditeurs, soutenez votre radio. Envoyez un chèque à RCF Solidarité, 69 321 Lyon, CEDEX 05.
Vous écoutez RCF en Gironde, à Bordeaux sur le 88.9, à Arcachon sur le 94.6 et où vous le souhaitez sur rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand.
Il est 11h30 sur RCF et Radio Notre-Dame. Nous sommes en compagnie d'Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme, qui répond à toutes vos questions ce matin. Tout va bien, Arnaud ?
Tout va bien, nickel. Bon. J'étais en train de réfléchir à la question d'Annette juste précédemment et oui. Je repensais à quelque chose sur les cochenilles, justement. Et il y a aussi quelque chose qui marche très bien pour les cochenilles. Donc je parlais de macération d'ail, mais il y a aussi l'extrait fermenté de fougère. La fougère qui est à la fois un répulsif et un insecticide pour certains types d'insectes. Donc ça peut également aussi assez bien fonctionner si elle a de la fougère pas très loin ou se fournir en jardinerie en extrait fermenté de fougère. Ça marche assez bien pour la cochenille.
Dans un instant, on aura une auditrice en ligne. Je crois c'est Michel qui va patienter au 04 72 38 20 23. Si vous êtes là, Arnaud, alors bien sûr, ça nous fait plaisir parce que vous répondez à de très très bonnes questions ce matin, comme d'habitude. Mais c'est aussi parce que nous sommes partenaires avec Terre et Humanisme, une association dans laquelle vous travaillez. C'est en Ardèche, ça se trouve à La Blachère. On a des cadeaux à offrir ce matin aux auditeurs, notamment des graines, Arnaud. Je suis fatigué.
Oui, tout à fait. des semences de graines qu'on reproduit nous-mêmes chez nous, donc des semences bioreproductibles. Ça peut être des semences de légumes du potager, ça peut être des engrais verts, des fleurs, des aromatiques qu'on produit au sein des jardins pédagogiques dans notre centre agroécologique à La Blachère en Sud-Ardèche.
Voilà, des graines ou alors un stage directement à Terre Humaniste, il faudra se déplacer sur place.
C'est ça, donc on a différents types de stages. Donc là, la saison se calme un petit peu, mais ça va bien reprendre au printemps. Donc on a des stages autour de l'accueil de la biodiversité au jardin. Des stages, ça peut être aussi réussir ses semis, tout simplement, ou tout ce qui va être autour de la multiplication des plantes. Et voilà, dans les stages prochains, on a aussi le 20 octobre un stage autour de la litière forestière fermentée, qui est une espèce de, on va dire, une préparation de justement pour multiplier les micro-organismes pour soigner les plantes et le sol. Et on a également une formation en décembre en collaboration avec Permalab autour de concevoir son système agroécologique. Ça, c'est plutôt pour les porteurs de projets, que ce soit agricoles ou jardiniers, qui veulent vraiment avoir les bonnes bases pour avant de se lancer.
Voilà. Des cadeaux qu'on vous offre ce matin, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est à vous de choisir et d'essayer de remporter ces cadeaux en envoyant un mail à l'adresse direct@rcf.fr avec vos coordonnées direct@rcf.fr pour tenter de remporter donc soit des graines de la surprise préparée par les jardiniers de Terre et Humanisme ou alors un stage à La Blachère en Ardèche pour découvrir le jardinage et se perfectionner direct@rcf.fr. Continuons avec Michel tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Oui, alors ma question, j'ai de l'oxalis qui envahit beaucoup les plantes, notamment les fraisiers. J'ai beau arracher, ça ne change rien. Ça reprend de plus belle. Et je voulais savoir si c'était embêtant et s'il y avait quelque chose à faire.
L'oxalis, d'accord, ben c'est ouais, j'avais jamais eu ce type de problématique. Je pense pas que ça soit embêtant. Donc l'oxalis, donc c'est une petite plante couvre-sol qui ressemble un peu au trèfle. Oui. Je pense pas qu'elle soit dérangeante. Effectivement, si elle est trop envahissante à ce moment-là, faut la limiter notamment autour du pied de fraisier. Alors, c'est pas du tout une plante gourmande en particulier, donc je pense pas qu'elle sera très concurrentielle par rapport au fraisier. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des toiles de paillage pour essayer de calmer un petit peu ce couvert végétal qui pousse naturellement autour de vos fraisiers. Mais en tout cas, moi, ça m'inquiète pas du tout. C'est vraiment l'oxalis, c'est pas du tout une plante qui va concurrencer beaucoup vos fraisiers.
Michel ?
Oui. Non, je disais, ça s'accroche à tout ce qui est bois. Donc, et c'est très difficile à enlever du pied lui-même puisqu'il est un peu en bois, enfin tout ce qui est bois. Et si je mets un paillage où il y a du bois, ça reprend encore plus. C'est pour ça que ça m'embête un peu.
Oui, ben c'est vrai que c'est un système racinaire qui est un petit peu compliqué à éliminer. Donc plutôt éviter les paillages un petit peu type broyat paille, mais plutôt vraiment des toiles, vraiment comme de la toile de jute notamment, d'autres types de toiles organiques qui vraiment vont faire une occultation, c'est-à-dire que la plante pourra pas traverser cette toile, et faites juste des trous ou des ronds au niveau des fraisiers, et du coup ça va vraiment freiner le développement de l'oxalis, vraiment avec une toile qui soit vraiment occultante et qui ait une durée de vie relativement longue, étant donné que les fraisiers sont en place pour pas mal d'années. Donc plutôt des toiles avec une épaisseur assez importante. Ça peut être des toiles, notamment la toile de jute, qui fonctionne bien, oui. De 5 mm jusqu'à 1 cm, ça se trouve assez facilement. Ça coûte pas trop cher d'ailleurs, et ça fait un travail sur le long terme.
Voilà, Michel.
Merci.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci et bonne journée, bon week-end. Merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. C'est même très mignon, l'oxalis, Arnaud.
Bah oui, ça fait des jolies petites fleurs en plus. Ouais.
Un peu violette ou verte, un peu des.
Oui, il y a des variétés d'ailleurs horticoles, qui ont été sélectionnées justement parce que c'est une très belle plante qui peut faire des feuilles un petit peu violettes avec des très belles fleurs. C'est une plante vivace, donc qui peut d'ailleurs faire un couvre-sol assez joli dans des parterres pour tes parterres un petit peu ornementaux. Donc c'est assez chouette comme plante.
C'était important d'en parler avec Michel. On continue avec Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous êtes à Vanves, on vous écoute.
Exactement. J'ai un petit jardinet et j'ai un hêtre pleureur. Et sous ce hêtre pleureur, les cyclamens s'y plaisent. Mmh. Et passé un temps, j'allais chercher des cyclamens chez Truffaut et je prenais ceux qui avaient un parfum. Et je n'arrive pas à retrouver le parfum. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Alors que dans ma jeunesse, j'allais à Cluse en Haute-Savoie. Et les cyclamens, c'était à profusion sous les sapins.
Et oui, ces cyclamens, donc c'est des plantes à bulbes, qui aiment bien pousser justement dans les endroits un petit peu ombragés, en sous-bois, donc qui se plaisent bien sous des grands arbres. Alors, je connais pas forcément les variétés,
ouais, les essences,
très
oui,
odorantes,
presque,
des essences. Normalement, c'est une plante qui se répand, qui se développe naturellement à partir du moment où elle est implantée. Et que le sol est pas trop remué, vu que c'est des bulbes qui sont relativement proches du sol. Normalement, ça se répand ça se multiplie naturellement relativement bien. C'est vrai que là, comme ça, je saurais pas dire où trouver des cyclamens spécifiques. Là, je connais pas les différentes variétés de cyclamens.
Vous voyez, je les plantais, c'est-à-dire que je les prenais avec du parfum, et l'année suivante, j'en avais plus. J'avais pas de parfum.
Ah oui, d'accord, c'était le parfum entre guillemets disparaissait d'une année sur l'autre alors que c'était la même variété. Ah oui, mais ça c'est peut-être à ce moment-là l'environnement qui change, et du coup la plante ne peut plus synthétiser le parfum. Ça je saurais vraiment pas vous dire à quoi c'est dû. Ça peut être vraiment énormément de facteurs environnementaux différents. Alors pour le coup le cyclamen c'est une plante qui a pas besoin de grand-chose, pas besoin de fertilisation, qui pousse vraiment spontanément, qui est très rustique. Donc je saurais pas vous dire ce parfum a disparu.
C'est une
énigme.
C'est parce qu'il les croise. Des croisons, des sélections, je sais pas du tout.
Ah, c'est.
Ah ben, en tout cas, effectivement, quand on va sur des plantes, de ornementales, de jardinerie et autres, il y a de plus en plus de croisements qui sont faits d'une variété à l'autre. En général, c'est pour avoir des plus grosses fleurs, pour avoir des fleurs qui durent plus longtemps. Et du coup, il y a certains paramètres, certains caractères qui peuvent disparaître, notamment le nectar, le pollen ou même les odeurs. Ça, c'est possible. À partir du moment où on va plutôt sur des plantes ornementales qui ont été sélectionnées de plus en plus. En général, la sélection se fait plutôt pour avoir des grandes fleurs et du coup, c'est au détriment d'autres caractères. Mmh. Donc, c'est sûrement pour ça, en tout cas.
Voilà.
Je peux vous dire que celles qui sentaient, les cyclamens qui sentaient, c'était des petites fleurs. Mmh. J'en ai jamais trouvé dans les grandes.
Ah ben c'est peut-être naturel. Du coup, faut peut-être plutôt chercher des cyclamens en milieu naturel, hein, qui n'ont pas été entre guillemets hybridés avec d'autres pour l'aspect ornemental. Donc voilà, plutôt revenir à des cyclamens du coup vraiment sauvages, on va dire.
Bon courage, Dominique. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Ça vous arrive, Arnaud Vance, d'avoir des plantes comme ça qui sentent terriblement bon et dont vous n'arrivez plus à retrouver le parfum?
Oui, ça peut arriver, mais c'est vrai que de plus en plus, la sélection variétale, notamment en jardinerie, chez les pépiniéristes, on a tendance à sélectionner des fleurs un peu plus grandes, un peu plus qui restent un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que ça peut être au détriment de la biodiversité, notamment parce que c'est des plantes qui vont avoir un peu moins de pollen, un peu moins de nectar, ou justement un petit peu moins de parfum. Donc on se retrouve avec des très très belles fleurs potentiellement qui attirent les pollinisateurs, mais ces fleurs sont assez pauvres en nourriture pour ces insectes-là. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter aussi à revenir à des plantes un petit peu plus sauvages, qui sont peut-être un petit peu moins belles, on va dire, culturellement, mais qui sont beaucoup plus bénéfiques pour le vivant, on va dire.
Je rappelle que vous pouvez tenter de remporter ce matin des graines préparées par les jardiniers de Terre et Humanisme, ou alors un stage de jardinage. Il faudra se déplacer en Ardèche à La Blachère. Et pour tenter de remporter soit l'un, soit l'autre, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. direct@rcf.fr. Une question de Nathalie. Que faire dans mon jardin partagé pour ne pas avoir trop de travail au printemps, Arnaud? C'est toujours très difficile pour moi, chaque année, tout arracher et retourner mon lopin de terre. Oui. Peut-on recouvrir la terre en hiver de quelque chose, carton, plastique, pour que cela ne pousse pas, nous demande Nathalie.
Oui, effectivement. Donc, bonjour Nathalie. En jardinage bio écologique, on va éviter de désherber de manière trop brutale ou avec des produits phytosanitaires. Mais pour justement avoir un travail facilité au printemps et avoir une terre entre guillemets qu'on peut dire propre, c'est-à-dire bien grumeleuse, une terre facile à travailler avec peu d'adventices pour démarrer très très vite au printemps. Et ben moi, ce que je vous conseille, vous avez le choix des couverts végétaux qui sont un petit peu plus une pratique qui marche très très bien, mais qui est peut-être un peu plus complexe quand on est jardinière amateur. C'est à ce moment-là plutôt partir sur une méthode qu'on dit l'occultation, c'est-à-dire qu'on va à la fois déposer sur le sol de la matière organique, ça peut être du compost, des feuilles mortes, des déchets de cuisine, etc., qui vont nourrir le sol à la surface. Donc les vers de terre vont venir manger ça, ils vont faire un labour biologique pendant tout l'hiver, tout en incorporant cette matière organique et donc en augmentant le taux d'humus de votre sol. Et au-dessus du coup de la matière organique que vous aurez posée sur votre sol, vous allez occulter, donc c'est-à-dire vous allez mettre quelque chose qui va empêcher la lumière de passer. Ça pour deux raisons. Déjà pour que la vie du sol soit bien tranquille et fasse son travail, et aussi pour éviter qu'il y ait des adventices, entre guillemets des mauvaises herbes, ou en tout cas des plantes spontanées qui poussent. Donc le fait d'occulter, vous allez empêcher la photosynthèse, la lumière de passer. Et donc pour occulter, il y a plein de manières différentes. Ça peut être avec du carton, avec effectivement en maraîchage biologique, on utilise beaucoup les bâches tissées ou les bâches plastiques, où on récupère parfois les bâches noires d'ensilage que les agriculteurs jettent tous les ans. Ça coûte pas trop cher et ça se trouve assez facilement. Donc il y a plein de méthodes. Après, c'est vrai que la bâche plastique noire, c'est vraiment pas très joli, c'est pas du tout esthétique, mais en tout cas ça permet d'avoir un travail vraiment facilité au printemps à partir de février-mars. Vous aurez vraiment, et là d'ailleurs c'est vrai que c'est le moment de le faire, pour vraiment avoir un sol vraiment extrêmement propre au printemps, il faut environ une occultation, on va dire, de 3 mois minimum, parce que l'hiver la vie du sol est un petit peu moindre. Oui. Donc vous pouvez occulter dès maintenant, et à partir de février-mars vous aurez vraiment un sol qui sera nickel pour vos légumes de printemps et démarrer un jardin.
Continuons de vous accueillir au 04 72 38 20 23. Nous avons Chantal, je crois. Chantal, est-ce que vous êtes là? Ah, Chantal.
Bonjour. Je voudrais revenir sur le compost. Je ne sais pas si je l'utilise comme il faut. J'ai peur de l'utiliser peut-être pas assez mûr. J'ai jamais vu mon compost chauffer, sauf une seule fois, où j'avais mis beaucoup de gazon.
Oui.
Et alors, je me posais la question, c'est la première année où, je plante des dahlias depuis 20 ans. Chaque fois, je mets une grosse poignée de compost au pied des bulbes.
Oui.
Cette année, je n'ai eu que 2 dahlias qui ont refleuri sur peut-être une vingtaine, si c'est pas plus. Alors, pourquoi ?
Qu'est-ce qu'on D'accord. peut faire ? Bonne question. Bonjour.
Oui, effectivement, le compost, c'est un monde. Ça paraît simple, et au final, il faut quand même respecter quelques grandes règles pour que ça se passe bien. En tout cas, Chantal, pour votre compost, en général, déjà au niveau de la temporalité, le compost, ça se met plutôt au printemps, quand la végétation redémarre. Ou ça, et si vous en avez une grande quantité, vous pouvez aussi en mettre à l'automne. Alors, le compost qu'on met à l'automne, il aura plutôt un effet sur le sol, c'est-à-dire qu'il va rendre le sol un petit peu plus grumeleux, aéré. Il va augmenter le taux de matière organique des sols, hein, qui est toujours très intéressant en jardinage écologique. Et après, il y a quand même des grandes règles à respecter pour que la décomposition se fasse bien et que vous ayez du coup un bon compost pour votre jardin. Vous parliez de gazon. Alors le gazon, c'est très riche en azote. Ça peut être mis dans un compost, mais faut faire attention. Faut vraiment mettre en fine couche le gazon, pas plus de 3 cm. Autrement, le gazon, il prend en masse et vous avez une fermentation, mais qui est une fermentation un peu putride. Et c'est pas du compostage. Le compostage, c'est une fermentation avec de l'air, parce que les micro-organismes et les macro-organismes, les vers de fumier, etc., qui sont dans les composts, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'air. Hein. Et si on met des choses comme ça qui ont tendance à faire des bulles un peu grasse, ça va mal se composter. Donc le gazon, c'est très bien de l'utiliser plutôt en paillage, toujours même au pied des plantes, hein, ça va vite nourrir les plantes, ou sinon dans vos composts, mais vraiment avec parcimonie, donc jamais une couche de plus de 3 cm, et en mélanger avec des matières plutôt carboné. On dit qu'un compost, il faut toujours mettre moitié de matière carbonée, moitié de matière azotée. Donc tout ce qui est carboné, ça va être la paille, le broyat, les feuilles mortes, le carton. Voilà, tout ce qui est brun, tout ce qui est sec, tout ce qui est riche en cellulose. Et tout ce qui est azoté, bah, c'est plus le gazon, les épluchures de légumes, les déchets potentiellement du jardin, de désherbage. Et vraiment faire un bon mix entre les deux. Oui. Et déjà, ça, en général, en respectant ça, ça se passe bien.
Voilà, Chantal.
Moi, je mets essentiellement mes épluchures de tout ce qui vient de la cuisine et tout, mais il faut y mettre des feuilles aussi.
Oui, tout à fait. Dès que vous mettez vos épluchures de vos déchets de cuisine, hein, épluchures, restes de repas, vous mettez le même volume en broyat de bois, en feuilles mortes, en carton, enfin quelque chose qui est brun, riche en carbone, et du coup ça va vraiment vous faire un bon compost, vraiment de bien meilleure qualité, et la fermentation, et vous aurez potentiellement aussi moins de soucis, moins de moucherons, moins d'odeurs, enfin voilà, ça va vraiment mieux se passer.
Bon, merci beaucoup.
Merci à vous, Chantal. Passez une excellente journée. Merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. On va écouter de la musique, mon cher Arnaud, avec Dua Lipa. Je suis sûr que vous connaissez cette chanson que vous allez entendre tout de suite. On accueillera Nathalie dans un instant à l'antenne. Vous continuez de venir poser toutes vos questions au 04 72 38 20 23. Et puis, vous pouvez tenter de gagner soit des graines, soit un stage de jardinage en Ardèche. Et pour tenter de votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr avec vos coordonnées. I never thought that I would find a way out. I never thought I hear my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. 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 So many nights my tears fell harder than my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love.
find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love.
Voilà, Love Again, c'était la pétillante Dua Lipa pour vous accompagner en ce vendredi matin.
Je pense, donc j'agis. Présenté par Melchior Gormand.
Et toujours avec Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme. Vous dansez bien Arnaud, hein? Bravo. Ah, je vous entends plus. Arnaud, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Oui.
Bah merci, je savais que j'étais espionné, mais
ah bah oui, quand même, c'est important de danser, c'est sympa, ça fait du bien. Alors je voulais vous dire deux choses. Déjà qu'on a une question de Liliane. Dans quoi faut-il stocker les bulbes de glaïeul, Arnaud?
Les bulbes, eh ben, mieux vaut les stocker dans un endroit sec, aéré, à l'ombre, notamment dans une cave aérée, pas trop humide, ou voire même pas humide du tout. Et là, pour le coup, ça va bien les conserver. Voilà. Assez facile à conserver.
Ben voilà. Question rapide, réponse rapide. C'est parfait. Anne nous a posé une question dans le groupe Facebook de l'émission qui s'appelle Je pense donc j'agis, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs pour réagir en direct pendant le direct. La sciure de bois dans le compost, est-ce possible et avec quelle quantité, Arnaud?
Alors la sciure de bois, oui, c'est tout à fait possible. Alors faut savoir que la sciure de bois, donc c'est vraiment du bois de cœur, hein, c'est de la lignine, donc c'est du carbone très dur. Donc ça va mettre beaucoup de temps à se décomposer. Donc quand on fait un compost plutôt pour le jardin, le potager, on va pas utiliser de ce type de bois parce que les légumes, ils ont besoin de choses très réactives qui libèrent les éléments nutritifs très vite. Donc plutôt, on va plutôt utiliser des choses, voilà, tendres, du bois tendre, des choses qui vont vite être digérées. Donc la sciure de bois, c'est plutôt pour les composts, par exemple de toilettes sèches ou des composts qu'on va utiliser plus pour des plantes vivaces, des arbres. Mmh. Donc en tout cas, la sciure, c'est tout à fait possible. Alors l'inconvénient quand même de la sciure, c'est que ça laisse peu passer les échanges gazeux, l'air notamment. Donc va falloir brasser votre compost avec une fourche à fumier beaucoup plus régulièrement que si vous mettez des matières structurantes comme de la paille ou du broyat de bois. Donc la sciure, c'est tout à fait possible, mais avec une pratique un petit peu plus soigneuse du coup du compost et du coup le résultat, la matière compostée, faudra aussi l'utiliser pas pour tout, mais plutôt pour des vivaces.
Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question d'Anne. On accueille Nathalie tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour. Voilà, j'avais une question par rapport à ce qui vient d'être dit au sujet des cartons.
Oui.
Pour éviter donc d'avoir des adventices. Mais là, je me pose la question parce que je vais bientôt passer la grelinette et puis après nourrir avec de la paille, etc., du crottin. Et après, le fait de poser le carton sur ce mélange crottin, paille, tonte, est-ce que c'est pas... Enfin, est-ce que c'est recommandé? Ou est-ce qu'il faut laisser justement en pleine lumière, en plein air, tout ça pour que ça se décompose? Est-ce que ça pourrait empêcher la décomposition de ce
mélange?
Oui, je
vois. Effectivement. Alors, c'est une question qui peut se poser. Bonjour Nathalie. Alors, si vous mettez une couche assez importante du mélange que vous avez parlé, donc ça va être occulté naturellement par ce mulch hein, de matière organique que vous allez mettre. Mais si vous mettez du carton ou une bâche, en général, assez naturel. Même quand il y a du carton, ça va pas empêcher la décomposition. Ce qui pourrait empêcher la décomposition, c'est par exemple si vous avez vraiment une grosse pluie, vous avez un sol qui est gorgé d'eau, et à ce moment-là, il y aura pas assez d'air pour les micro-organismes et les vers de terre pour digérer toute cette matière, et ça risque de ralentir du coup la fermentation, la bonne décomposition de ces matières. Donc à ce moment-là, mieux vaut débâcher à un moment donné pour laisser passer un petit peu plus d'air. Donc voilà, ça va. Si vous avez un sol qu'on dit du coup hydromorphe, très compact, très argileux, là à ce moment-là, ça peut avoir le coup de temps en temps retirer l'occultation pour que l'air circule bien justement. Autrement, si votre sol est déjà un petit peu grumeleux, s'il y a déjà pas mal de vers de terre, si c'est déjà assez assez riche, à ce moment-là, ça va très bien se passer et vous pouvez laisser l'occultation tout l'hiver.
Non, vous avez répondu à ma question en partie.
Parfait.
Si je mets pas mal de paille et de crottin, finalement, ça sera occulté. J'ai pas besoin de rajouter des cartons en plus.
Oui, c'est ça, c'est ça. Si vous mettez une couche assez importante, on va dire une dizaine de centimètres hein, de mélange de paille et de crottin, à ce moment-là, les adventices vont être occultés. Même s'il y a des graines qui germent, il y en a extrêmement peu qui arriveront à passer un paillage de 10 centimètres. Donc vous aurez entre guillemets, voilà, votre sol sera à la fois protégé parce qu'il y aura un couvert végétal pendant l'hiver et ça va se décomposer. Et au printemps, vous pourrez démarrer tranquillement. Et vraiment, si vous voyez qu'il y a quand même des adventices qui poussent au printemps, où vous pouvez juste bâcher 2-3 semaines avant les plantations pour bien calmer les adventices juste au printemps.
Voilà, là, Nathalie.
C'est pas nécessaire.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.
C'est gentil. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre appel ce matin. Bah, dis donc, Arnaud, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est passé terriblement vite. C'est incroyable.
Hein. C'est passé très vite, effectivement.
Exactement. Mais je pense qu'on est aussi pressé de partir en week-end. Un dernier conseil peut-être à nous transmettre pour finir, Arnaud?
Un dernier conseil, si on reste sur le compost, vraiment le compost c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour nourrir le sol. Donc n'hésitez pas à faire des grandes quantités de compost pour vos jardins. Là c'est vraiment le moment. Il y a plein de choses qui voilà, du désherbage, des feuilles arrivent, voilà, des nettoyages du son potager. Vous pouvez vraiment tout mélanger pour faire un super compost qui va vraiment bien nourrir votre jardin au printemps.
Eh bah parfait. Merci beaucoup Arnaud Vance pour ce très très bon conseil et rendez-vous sur le site de votre association terre-humanisme.org pour retrouver un peu tout ce que vous faites avec de nombreux stages que vous organisez. Alors pendant l'hiver c'est toujours un peu plus compliqué. En tout cas ce matin je rappelle qu'on vous fait gagner des graines ou alors un stage à la Blachère en Ardèche pour bien apprendre à jardiner avec pourquoi pas Arnaud et même Fred hein, qu'on accueille souvent dans l'émission, et pour tenter de remporter soit l'un soit l'autre, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Merci Arnaud, merci à Vincent qui vous réalisait du côté de Priva, merci à Christophe avec moi, à Catherine. Je vous souhaite un très très bon week-end avec un peu d'avance. On se retrouve lundi dont je pense donc j'agis de 10h à midi. Bon week-end et bon appétit.
RCF, écoutez le verre à moitié plein. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Les chiffres le prouvent, la dépression en France augmente d'année en année. Comment échapper à la dépression dans un monde aussi stressant ? Réflexion ce vendredi à 17h dans cette émission Quête de Sens.
Il n'est désormais plus rare de rencontrer des prêtres étrangers en mission dans les paroisses françaises. Ceux que l'on appelle prêtres fidei donum, officiers en ville, mais surtout en monde rural. Cette semaine, je vous emmène à Aubenas, en Ardèche, à la rencontre d'un prêtre polonais et de deux prêtres africains.
Un reportage à découvrir ce vendredi à 14h30 en partenariat avec les œuvres pontificales missionnaires Agir partout avec le Christ.
Le 5 novembre, les États-Unis feront face à un choix crucial, marqué par un véritable choc des valeurs. D'un côté, Donald Trump incarne la fermeté et l'exclusion. De l'autre, Kamala Harris défend l'inclusion et la démocratie. Cette élection transcende le traditionnel duel républicain-démocrate. Elle expose une fracture profonde au sein de la société américaine. Pendant 2 semaines, La Croix explore cette Amérique divisée à travers des reportages inédits et des analyses détaillées. Découvrez notre grand dossier sur cette confrontation des valeurs et l'avenir du pays en vente dès maintenant chez votre marchand de journaux.
Vous écoutez RCF dans le Puy-de-Dôme, à Issoire sur le 89.1, à Clermont-Ferrand sur le 91.6, à Ambert sur le 101.5 et partout en France avec l'application RCF.
Écoute dans la nuit, Marie-Leïla Koussa.
Ce soir, partons en pèlerinage sur les pas de Sainte Thérèse de Lisieux pour aller vers Jésus. De Lisieux à Rome, en passant par Paris, marchons ensemble ce soir avec la Carmélite. Rejoignez-nous dès 21h dans Écoute dans la nuit.